Chapitre 32. C'est la deuxième fois que nous venons à Paris. Je garde un mauvais souvenir de la première. Dans notre groupe, seuls Rosalie et Marius connaissent la capitale. Grégoire, qui y a effectué ses études, commente les monuments sur notre passage. Devant la tour Eiffel, Joséphine s'extasie. « Comme elle est belle !»« Tu pourrais l'escalader avec ton juste au corps !» je propose. Rosalie se cache pour pouffer. Joséphine replonge dans son téléphone. Il est près de 17h lorsque nous arrivons à l'hôtel. J'ai mal partout et je meurs de faim. Nous avons fait halte sur la route pour nous restaurer, mais je n'ai rien avalé. Sur les conseils avisés de mon petit-fils, j'ai commandé un Big Mac. Je n'ai jamais réussi à ouvrir la bouche assez grand pour croquer dedans. Nous logeons tous au premier étage. Mon mari et moi avons la plus grande chambre, privilège du fauteuil roulant. Après cet éreintant voyage, nous décidons de nous reposer avant de nous retrouver pour dîner. « Bienvenue au paradis, poupée !» lance Anatole avec un clin d'œil. « Je vais te faire vivre une nuit inoubliable !»« Je vais aller dormir avec Joséphine !» je réponds en feignant la fuite. Anatole rit. Nous n'avons dormi à l'hôtel que 3 fois, dans les années 90, lors de championnats de danse. Je n'y prends pas beaucoup de plaisir, je me sens démunie face à cette profusion de services. Je suis incapable de quitter la chambre sans l'avoir nettoyée. Je n'oublierai jamais la tête du réceptionniste lorsque je suis descendue lui emprunter un aspirateur. J'ai bien fait d'insister, il y avait tellement de moutons sous le lit qu'on se serait cru en Irlande. La valise est rapidement vidée. Je range nos vêtements dans les placards et nos affaires de toilette dans la salle de bain. Il nous reste près de 2 heures avant de rejoindre le reste du groupe. Anatole, allongé sur le lit, me fait signe de le rejoindre. Je me couche à ses côtés et j'enfouis ma tête dans son cou. Depuis mon plus jeune âge, j'ai peur de la mort. Je ne suis pas un cas isolé. Tout le monde, ou presque, la redoute. Cependant, souvent, les gens ont peur de l'inconnu, du néant, de ce monde qui tournait avant eux et continuera après. Je n'ai pas peur du néant. L'idée que le monde continue de tourner après moi me réconforte. Parfois, je regarde un arbre, un bâtiment, un enfant, et je songe qu'il sera encore là, après. Non, ce qui m'effraie, ce qui me terrifie, c'est l'idée de ne plus jamais voir les personnes que j'aime. Particulièrement Anatole. Je suis au soir de ma vie. J'ai partagé plus de 60 ans avec mon mari, chaque journée, chaque nuit. Et j'en veux encore. Je n'en ai pas eu assez. J'ai consulté une psychologue une fois. C'était après le décès de ma mère. Ma phobie avait pris les rênes de ma vie. Chaque bon moment était gâché par la pensée qu'il s'agissait peut-être du dernier, que tout s'arrêterait un jour. Elle m'a écoutée en silence, puis à la fin de la séance, elle m'a posé une question à laquelle je pense encore souvent. La vie aurait-elle la même valeur si elle durait toujours? Avec l'âge, ma peur s'est limitée à une petite place dans mon esprit. Elle se manifeste de temps à autre, mais ne me paralyse plus. J'ai vu tellement de personnes fauchées en pleine jeunesse que je ne peux me plaindre d'arriver au bout du chemin. Devenir vieux est un privilège. Par-dessus tout, j'ai compris que la vie ne serait pas aussi précieuse si elle était éternelle. Sans ce sablier dans un coin de nos têtes, sans doute ne chercherions-nous pas à profiter de chaque instant, à nous fabriquer de bons moments, à apprécier ce que nous offre l'existence. Avec l'expérience, avec les uppercuts, cela se confirme. Plus nous approchons de la ligne d'arrivée, plus nous avons conscience de ce qui compte vraiment, plus l'insignifiant le devient. L'acuité est meilleure. Je n'ai jamais prêté autant attention aux jolies choses qui m'entourent que depuis que j'ai entamé la dernière ligne droite. Les gouttes de pluie qui rebondissent sur le sol. Une abeille qui butine. La douceur du silence. La mélodie d'une voix aimée. La magie d'un corps qui vit. L'éclat du soleil sur une perle de rosée. Le chant du merle, la caresse du vent. Nous sommes entourés de merveilleux. Je reste un moment allongé sur le lit moelleux, ma main qui écoute le cœur de mon aimé, ma tête qui se soulève au rythme de sa respiration. Il s'est assoupi. J'ai des fourmis dans le bras. Rosalie, Joséphine, Marius et Grégoire sont déjà en bas quand nous les rejoignons pour dîner. Rosalie a mis tellement de fards à paupières qu'elle peine à ouvrir les yeux. Gustave n'est pas encore descendu. « J'ai réservé un petit resto au coin de la rue », annonce Grégoire. « Comme ça, pas besoin de sortir le minibus. »« J'espère que ce n'est pas un de ces endroits où on attend des heures pour être servi », bougonne Marius. « Je ne veux pas me coucher tard, on doit être en forme pour demain. Jean-Pierre Pernaud compte sur nous, camarades. »«
Faudrait déjà que Gustave arrive », soupire Rosalie. « Il est capable de s'être endormi. »«
Je vais le chercher », annonce Marius en se dirigeant vers l'ascenseur. Il en ressort peu après, seul. Il ne répond pas.
« Ce n'est pas normal !» s'exclame Joséphine. « Il lui est arrivé quelque chose !»«
On n'a qu'à demander à la réceptionniste de nous ouvrir la porte !» propose Anatole.
Joignant le geste à la parole, nous nous dirigeons vers le comptoir d'accueil. La réceptionniste nous écoute attentivement, puis finit par déclarer
« Je ne peux pas ouvrir la porte des clients sans raison, je suis navrée. »«
Mais enfin, notre ami est peut-être en danger !» s'écrie Joséphine.
L'angoisse me contamine à mon tour. Sans douter un instant de ma crédibilité, je m'entends dire à la jeune femme.
« Si vous n'ouvrez pas, on défonce la porte !»
Sans se départir de son sourire, elle répète. « Je ne peux pas ouvrir la porte des clients sans raison, je suis navrée. » De toute manière, si vous parlez du monsieur avec un déambulateur, je l'ai vu monter dans un taxi peu après votre arrivée.